à tout prix la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Bonjour, je m'appelle Laurent Bonnefoy. Je vais vous parler aujourd'hui de mes recherches et d'une publication qui a été publiée par les éditions Fayard il y a un petit peu moins d'une année. Un livre qui s'appelle Le Yémen, de l'Arabie heureuse à la guerre, et qui est le fruit d'une recherche que j'ai menée dans le cadre de mes activités de chercheur au CNRS en sciences politiques, au CERI, au Centre de recherche internationale de Sciences Po. Ce travail a été récompensé par le prix Eugène Collat de l'Académie française en 2018. Alors, une des premières questions qu'on va me poser en général concerne le pourquoi, les raisons de cette recherche. Pourquoi vouloir, quand on est chercheur en sciences politiques, spécialiste des relations internationales, intéressé principalement par le Moyen-Orient, eh bien, vouloir travailler sur le Yémen. Plus spécifiquement, pourquoi vouloir approcher ce pays à travers son insertion dans les relations internationales et à travers ses interactions, je dirais, avec le monde. Donc cette recherche, elle est tout d'abord le fruit d'un séjour long au Yémen. J'ai passé un total de 4 années à différentes périodes. Et donc c'est le fruit d'une accumulation de connaissances, de sensations aussi, parce que je pense que la recherche s'appuie aussi non seulement sur le travail de terrain effectif, mais aussi sur une dimension plus intime, moins facilement objectivée. Mais ce travail de cette publication, ce travail de terrain, a été poussé, favorisé par, je dirais, une double insatisfaction. La première est liée au contexte actuel. On a au Yémen une guerre qui dure depuis bientôt 4 ans, depuis mars 2015, qui est souvent qualifiée de guerre cachée, qui est très souvent négligée. On en parle un petit peu dans les médias, mais pour différentes raisons, notamment les difficultés d'accès au terrain. Eh bien, par rapport à d'autres conflits, je dirais qu'il est très largement ignoré, ou en l'espèce, et en dépit la participation directe ou indirecte des puissances occidentales dans ce conflit, eh bien, on a le sentiment que, eh bien, on a un laisser-faire des grandes puissances qui permettent, notamment à l'Arabie saoudite, qui est directement impliquée dans cette guerre à travers les bombardements, de continuer une politique qui est, à bien des égards, négative, qui est responsable aussi d'une crise humanitaire qui est qualifiée par l'ONU comme étant la plus importante du monde contemporain. Donc il y a cette insatisfaction de se dire, bon, moi qui connais d'une certaine manière le Yémen, eh bien, je ressens une injustice dans le fait que, eh bien, on n'en parle pas assez. Et donc c'est ce qui m'a conduit d'une certaine manière, et ce qui a sans doute amené aussi mon éditeur à me faire confiance et à se dire qu'il y avait d'une certaine manière la place et la nécessité d'avoir des travaux publiés sur le Yémen, des travaux fruits de recherche, mais aussi qui étaient accessibles au plus grand nombre. Et puis, il y avait aussi une seconde insatisfaction liée à l'accès au terrain. Là, il y a une dimension qui est objective, le fait que dans de plus en plus de pays, pour des raisons multiples, mais notamment liées à la sécurité, eh bien, il est devenu de plus en plus difficile de faire du terrain. Cette dimension-là objective, la difficulté de travailler en Syrie, de travailler au Pakistan, par exemple, ou dans d'autres pays, et notamment le Yémen, eh bien, impose d'une certaine manière de développer une approche qui est différente. Et cette approche différente, c'est celle de traiter le Yémen non pas à travers uniquement ses dynamiques internes, mais à travers ses interactions avec le vaste monde. Et c'est cette approche-là que j'ai tenté de développer en m'inspirant de travaux, mais en m'appuyant aussi sur une formule qui est utilisée par Patrick Boucheron dans son ouvrage, l'ouvrage récent qu'il a dirigé sur la France et le monde, eh bien de comprendre comment finalement le Yémen s'explique avec le monde. On peut appréhender un certain nombre de dynamiques en regardant justement les différentes interactions. Pour mener à bien ce projet, j'ai mobilisé des sources variées qui étaient des sources de première main que moi j'avais pu accumuler en étant au Yémen, mais aussi des sources historiques, des sources en anglais, en français, en arabe, pour tenter de multiplier les points de vue et pas m'arrêter seulement, je dirais, une histoire des grands hommes ou une histoire qui se cantonnerait seulement aux récits qui parlent du Yémen dans les langues occidentales. Et en multipliant les points de vue, j'ai trouvé une forme de valeur ajoutée importante que j'essaie, à travers l'ouvrage, eh bien de présenter. Alors, cette valeur ajoutée, elle permet d'une certaine manière de remettre le Yémen à sa place, c'est-à-dire une place qui est assez ambivalente. C'est un pays qui a une image très, très forte hein, dans les imaginaires, notamment dans la production culturelle. C'est tout à fait fascinant de voir combien de la Reine de Saba, Arthur Rimbaud, en passant par André Malraux, Auguste Bartholdi, notamment dans l'environnement français de la production culturelle et artistique, on a tout un tas d'images qui viennent se chevaucher. Et puis, plus récemment, on a l'image qui est véhiculée par celle d'un pays qui est, d'une part, pauvre, mais qui aussi est caractérisé par une forme d'insécurité importante. L'exemple le plus probant de cette image-là est à trouver, par exemple, dans les dépêches de l'agence France Presse, qui pendant des années, y compris sur des thématiques qui n'avaient pas grand-chose à voir avec Al-Qaïda ou le terrorisme, eh bien, mentionnait à chaque fois que le Yémen était la patrie d'origine de la famille Ben Laden. Et donc cette image-là liée à Al-Qaïda a structuré très largement la place récente du pays. Et puis, dans le même temps, si on se projette un petit peu plus récemment, on voit que, en dépit de ces images fortes, eh bien, le Yémen souffre d'être, d'une certaine manière, négligé par ce qu'on appelle la communauté internationale. Ce qui me semblait important pour rétablir, je l'ai dit, peut-être la juste place du Yémen, c'était d'intégrer le fait que ces interactions qui m'intéressent entre le Yémen et le monde ne sont pas constituées que, je dis, par les grands hommes, mais aussi par des traités, par des diplomates, ou bien par des phénomènes de violence qui font parfois la une des médias, comme c'est le cas avec l'attentat contre Charlie Hebdo de janvier 2015, qui a été revendiqué par la branche yéménite d'Al-Qaïda. Non, il y a au-delà de ces grands événements, je dirais, des interactions qui sont plus furtives, souvent ignorées, et qui donnent une image qui est tout autre du Yémen. Le Yémen n'est pas seulement un foyer d'instabilité, pas seulement un foyer de violence, mais c'est aussi un pays qui a été une société qui ont été extrêmement marquées par des interactions quotidiennes, notamment les flux de personnes. Alors j'ai un chapitre qui est consacré aux migrations, qui ont été extrêmement importantes, non seulement pour le Yémen, mais aussi pour d'autres pays de la région et au-delà. Notamment si on pense à l'Indonésie, par exemple, dont le champ musulman a été très largement structuré par la présence de yéménites de la région du Hadramaut. Il y a toute la présence aussi d'ouvriers yéménites à partir des années 30 en Arabie Saoudite qui ont permis de structurer très largement l'économie dans le Golfe et donc en Arabie Saoudite. Et puis, il y a aussi là un exemple d'interaction qui est souvent oublié, négligé. C'est peut-être le fait que le Yémen n'a pas seulement diffusé des personnes, mais il a aussi été un réceptacle. Et on a toute une présence étrangère au Yémen qui constitue une forme de société cosmopolite qui est tout à fait intéressante. Et puis enfin, si on essaie d'intégrer le fait que le Yémen n'est pas seulement un acteur passif des relations internationales qui serait soumis à la lutte antiterroriste ou bien soumis aujourd'hui au bombardement de la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite, il y a aussi toute une production culturelle qui vient du Yémen et qui d'une certaine manière rayonne, qui est souvent négligée, mais qui est tout à fait intéressante, notamment parce qu'elle se réapproprie un certain nombre d'instruments modernes, de technologies qui, sur Internet, à travers les téléphones portables ou à travers la musique, par exemple, sont tout à fait importants et symptomatiques d'une insertion qui est sans doute plus complexe qu'on veut bien le comprendre. Enfin, et c'est aussi d'une certaine manière une des raisons qui m'ont amené à mener cette recherche, c'est de comprendre comment finalement la guerre qui est menée depuis 3 ans par l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, d'autres pays de la région, mais qui est largement soutenue aussi par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France dans une certaine mesure, eh bien, pourquoi se laisser faire, pourquoi cette intervention est éclairée aussi par la relation ambivalente du Yémen avec le monde. Le Yémen, je l'ai dit, est une source de mystère, une source de fascination. J'ai mentionné tout à l'heure une production culturelle occidentale, notamment française. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que cette production-là, elle est aussi structurante d'une image dans le monde arabe. Il y a des images très très fortes sur le Yémen en tant que berceau de la civilisation arabo-musulmane. Il y a le terme Yémen est mentionné à plusieurs reprises dans le Coran. Donc cette image-là, elle structure aussi un certain nombre de fantasmes et donc une fascination, y compris donc dans l'imaginaire arabe et musulman en général. Et pourtant, et c'est ce qui, à mon avis, est l'un des soubassements de l'intervention actuelle de l'Arabie Saoudite, c'est que dans le même temps, il y a une forme de mépris extrêmement bien ancré pour le Yémen de la part de tout un tas de pays de la région. Évidemment, l'Arabie Saoudite, mais je pense dans une certaine mesure l'Égypte, la Turquie, l'Irak, qui ont peut-être une image très très positive de leur propre civilisation et qui, pour différentes raisons, vont mépriser le Yémen, notamment parce que c'est un pays extrêmement extrêmement pauvre et qui, de ce fait-là, apparaît comme étant périphérique. Le fait que la société yéménite reste encore très largement structurée par la tribu, l'organisation tribale, eh bien, induit souvent une image d'arriération, donc de mépris, qui fait que eh bien, cette ambivalence-là, ces images véhiculées par la production littéraire, les décisions politiques, eh bien, influe très directement aussi sur les interactions et légitime du point de vue d'un certain nombre de dirigeants en Arabie Saoudite ou ailleurs, eh bien, une intervention et une forme de mépris. Mais ce qui se passe, c'est que dans le même temps, ces images-là qui sont, je l'ai dit, ambivalentes, qui sont souvent assez paradoxales, eh bien, font que la société yéménite continue à être très largement inconnue. Cette méconnaissance de la société yéménite en elle-même, eh bien, a un coût extrêmement élevé, tout simplement parce que les politiques qui y sont menées n'établissent pas les bonnes priorités. Elles méprisent, je l'ai dit, souvent les yéménites, qui sont bombardés, qui subissent une crise humanitaire extrêmement grave, sans que cela génère réellement les décisions ou bien la prise de conscience qui serait nécessaire. Et pourtant, Je dirais que ce qui se produit actuellement au Yémen, qu'on peut décrire comme étant l'effondrement d'une société, du fait de la guerre, mais aussi du fait d'un certain nombre d'autres dynamiques, eh bien, a toutes les raisons de ne pas se produire à huis clos. C'est-à-dire que les images qu'on peut avoir, le mépris qui sous-tend les politiques qui sont menées au Yémen, eh bien, moi, me semble mal calibré et auront, d'une certaine manière, un coût. Alors, le coût, il sera essentiellement pour les Yéménites, évidemment, qui se trouvent aujourd'hui, eh bien, la cible de bombardements, mais aussi pour le coût sera payé, d'une certaine manière, pour la région. Et là, il y a un diagnostic qui est d'une certaine manière, mauvais. On considère que le Yémen n'est finalement qu'une périphérie insignifiante. Dans le livre, j'essaie de montrer que ce n'est pas le cas, et que, à force de considérer que c'est une périphérie insignifiante et que la guerre qui s'y déroule ne nous concerne pas, eh bien, on fait un certain nombre d'erreurs, et que si je dis que l'effondrement de la société ne se produit pas à huis clos, c'est parce qu'il y a tout un tas de faisceaux d'indices qui nous incitent à considérer que, au moins pour trois raisons, eh bien, il faudrait, d'une certaine manière, prendre le cas du Yémen au sérieux, évaluer sa place dans le monde avec sérénité, avec intelligence. Alors, ces trois raisons, c'est la première liée, je dirais, à un certain nombre de dynamiques démographiques conjuguées à la guerre. Le fait que, eh bien, au Yémen, aujourd'hui, nous avons 30 millions d'habitants, la population est censée doubler tous les 20 ans, et on a une situation de guerre, une situation de pauvreté qui induit fatalement eh bien, une fuite et donc des réfugiés. Et ces réfugiés-là ont sans doute, eh bien, porte de sortie, principalement dans la région, les autres pays de la péninsule arabique, mais aussi fatalement l'Europe. Et quand on constate combien le discours sur les réfugiés syriens en Europe a, d'une certaine manière, rebattu les cartes politiquement, généré une crise politique et morale, eh bien, je dirais que des responsables politiques en Europe devraient, d'une certaine manière, considérer à sa juste valeur cette question yéménite pour faire en sorte que eh bien, les Yéménites eux-mêmes voient un avenir dans leur propre pays. La deuxième dynamique qui fait que, d'une certaine manière, le Yémen pourrait bien se rappeler à notre bon souvenir, c'est la question de la violence dite djihadiste. Je l'ai dit tout à l'heure, l'attentat contre Charlie Hebdo de 2015 a été revendiqué par Al-Qaïda dans la péninsule arabique, mais on a une longue histoire de présence de mouvements violents se revendiquant de l'islam qui ont tenté à plusieurs reprises de projeter leur violence. Et que, avec l'effondrement partiel au moins de Daesh au Levant, Syrie-Liban, eh bien, on pourrait malgré tout penser que eh bien, le Yémen constitue une base arrière. Ça a été le cas dans le passé, il y a un certain nombre d'éléments qui le montrent. Et puis enfin, il y a une question qui, moi, me tient particulièrement à cœur, qui est celle liée au climat et puis aux ressources en eau. J'écris et je dis souvent que le Yémen, d'une certaine manière, est un laboratoire. C'est le pays et la société sont traversés par des dynamiques qui probablement vont toutes et tous nous affecter dans les décennies à venir. C'est-à-dire que, considérant les questions démographiques que j'ai évoquées tout à l'heure, considérant le fait que, eh bien, on constate un changement climatique, et considérant le fait donc que le Yémen, par tête d'habitant aujourd'hui, est un des pays avec les ressources en eau par tête d'habitant les plus faibles au monde, eh bien, on va avoir un épuisement des ressources qui induit fatalement des mouvements de population. Et donc, si on ne réfléchit pas à un petit peu, au moins à moyen terme, à trouver des solutions, on constate que finalement cette insertion complexe du Yémen va avoir un coût, je l'ai dit, essentiellement pour les Yéménites, mais risque bien, eh bien de de produire des effets au-delà. Et ce qu'on constate, c'est que la guerre qui est menée, je l'ai dit, avec une forme de complaisance des puissances occidentales, eh bien, d'une certaine manière, fait perdre du temps. On oublie les dynamiques dont j'ai parlé, les dynamiques démographiques, les dynamiques environnementales, les dynamiques politiques, pour se concentrer sur, finalement, des questions politiques qui apparaîtront, je pense, dans quelques années comme des épiphénomènes.